Merci d'écouter Beurre FM, il est 9h.
9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle de santé entre 9h et 10h sur Beurre FM, mais aujourd'hui on va parler de la maladie avec mon invité, le docteur Philippe Abastado. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'université Paris 7 en épistémologie appliquée à la médecine. Vous êtes également cardiologue, angiologue et spécialiste des maladies vasculaires. On dit vasculaire maintenant, on dit plus cardiovasculaire.
Pour être tout à fait honnête, je suis plutôt cardiologue et je laisse aux copains plus angiologue le vasculaire. On se partage le travail.
C'est bien. Vous êtes venu parler de votre dernier roman, qui s'appelle Le Dernier Déni. Craignons-nous plus la maladie que la mort? C'est un livre d'épistémologie appliquée, dites-vous.
C'est-à-dire qu'en fait, on se pose des questions de la société et le pourquoi de la société, comment se fonctionne la société autour de la maladie. Donc c'est de l'épistémologie dans la mesure où c'est une interrogation sur un phénomène de savoir comment on comprend la maladie, comment on sait la maladie, et c'est appliqué à la médecine, donc c'est pas de la grande théorie.
Vous êtes plutôt Jules Romain, tout bien portant est un malade qui s'ignore, ou alors tout malade est un bien portant qui s'ignore?
Je crois que les deux sont très différents. C'est-à-dire que quand on est bien portant, Dieu merci, on ne sait pas ce que c'est que la maladie. Puis le jour qu'on est malade, eh bien on se rend compte qu'on rentre dans un nouveau monde, un monde qu'on ignorait avant. Malheureusement, les deux mondes sont finalement assez imperméables et c'est un vrai problème.
Qu'est-ce que les bien portants savent de la maladie?
Tant qu'ils ne sont pas malades, ils ne le savent pas. On ne sait pas ce que c'est avoir mal. Quand on dit, par exemple, vous êtes fatigué, quand vous êtes fatigué parce que vous avez beaucoup travaillé, fatigué parce que tout le monde vous embête, vous dites « je suis fatigué ». Et quand vous avez un cancer, quand vous avez une méchante maladie, quand vous dites « je suis fatigué », eh bien, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même réalité.
Sauf que rarement des gens disent qu'ils ont un méchant cancer. Vous faites remarquer...
Vous avez tout à fait raison, et c'est ça le sujet du livre. Rarement les gens disent. Vous êtes exactement dans le sujet.
Voilà, non, merci, j'ai lu votre livre. Alors, vous mettez le point sur quelque chose d'évident, mais auquel on ne fait pas forcément attention, c'est que la maladie, elle a disparu de la société. Regardez, pour les gens qui travaillent en entreprise, il n'y a jamais de malade. Et souvent, les gens qui ont des maladies chroniques, comme vous venez de dire, vous les voyez avant d'être malade, et vous les voyez au retour du traitement. Mais vous les voyez rarement pendant, en tout cas rarement avec ce diagnostic de « je suis malade, je suis en train de me soigner ». Enfin, il y en a de plus en plus, mais c'est rare. Hein. Les gens, vous les voyez souvent après.
Alors, première chose, c'est qu'avant, on disait donc un congé maladie. Maintenant, on dit un arrêt de travail.
Ouais.
Et la deuxième chose, c'est quand même insignifiant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a les handicapés. Donc le handicap est accepté. Difficilement, il y a une semaine sur le handicap et donc on a du mal à faire rentrer les handicapés dans le monde du travail.
Alors vous remarquerez qu'aujourd'hui on ne dit plus personne handicapée, on dit personne en situation de handicap. Hein. Oui, c'est un peu la même chose que les arrêts maladie.
Il n'y a plus d'institutrice, il n'y a plus d'aveugle. Donc c'est exactement ça. Donc être handicapé, c'est-à-dire très tôt avoir intégré son handicap et on ne se considère plus comme malade. L'handicapé ne se considère pas comme malade. Et le malade est tout à fait autre chose.
Vous passez votre livre à vouloir et à essayer de définir ce que c'est que le mot maladie, mais finalement, est-ce que la maladie, c'est avoir mal, par exemple? Est-ce que vous accepteriez cette définition? Est malade celui qui a mal?
Alors, je ne l'accepte pas. Pourquoi? Vous prenez un diabétique.
Oui.
Il se pique 3 fois par jour. Vous prenez quelqu'un qui est séropositif. Il s'enfile, je ne sais pas combien de comprimés. Vous lui demandez, est-ce que vous êtes malade? Il vous répond non. Il a la grippe, je suis malade. Donc, on ne peut plus. Et la deuxième chose, c'est qu'actuellement... Vous êtes en pleine forme, vous allez chez le docteur, il vous fait une prise de sang. Le monsieur, il a un PSA très haut. Madame, elle va partir en vacances, elle fait la mammographie, parce qu'il faut quand même, avant de partir en vacances, elle a un cancer du sein. Et elle n'est pas malade. Elle n'a pas la sensation d'être malade. Et quand est-ce qu'elle va avoir mal? Quand les docteurs s'occupent d'eux. À partir du moment où il va y avoir la chimiothérapie, l'acte chirurgical, la radiothérapie. Donc là, le symptôme douloureux apparaît avec le soin, et non pas avec la pathologie.
Je connais quand même un certain nombre de gens, alors ça vaut pour ce que ça vaut, hein, comme observation, mais qui n'avaient aucun symptôme, voilà, et qui à partir du moment où ils vont être diagnostiqués...
Tout apparaît.
Ben voilà. C'est donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas diagnostiqué malade, ça veut dire qu'on ne l'est pas dans sa tête?
Alors, ça veut dire qu'on l'est factuellement, mais qu'on ne l'est pas dans sa tête. Et ce qui est terrible, c'est que... on change de monde en l'espace d'une révélation. C'est-à-dire que toute votre vie, vous allez vous rappeler le jour où on vous a dit, écoutez, votre analyse, vous êtes dans un bureau confortablement assis, avec un médecin qui vous est sympathique. Le type, il vous dit, monsieur, madame, vous êtes malade, vous avez une méchante chose. Toute votre vie, vous allez avoir le souvenir de cette révélation. C'est extrêmement violent, le moment où vous passez du statut du bien portant à malade est d'une violence inouïe.
Alors ensuite, il y a autre chose pour le malade, c'est ce que vous nous expliquez, c'est savoir si sa maladie est curable ou pas.
Exact, ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans une pathologie incurable, vous rejoignez quand même un peu un discours de mort, et votre position par rapport au fait d'être malade est radicalement différente. Et souvent, il y a des attitudes, par exemple des attitudes d'abandon, donc, ou à l'inverse, c'est-à-dire on abandonne son corps aux soins de la médecine, on perd une autonomie, et puis ça change toute perspective.
Comment est-ce qu'on fait le deuil, si vous avez compris le processus, le deuil de sa guérison, puisque être atteint d'une maladie incurable, ça veut dire que finalement on ne va pas en guérir.
Tout à fait.
Comment est-ce qu'on fait
Le deuil se fait en plusieurs étapes.
Le deuil de la guérison.
De la guérison, oui. On passe à la guérison.
Parce que quand on est malade, on a toujours l'espoir qu'on va guérir.
Dans l'incurable, il y a actuellement des nouveaux concepts. Ça, par exemple, je parlais des HIV+, dans un certain nombre de cancers avec des métastases, on dit aux gens, écoutez, vous n'êtes pas curable, mais vous allez pouvoir vivre pendant des années avec un traitement lourd.
Donc c'est
tout à fait nouveau.
C'est ce que disent les médecins, ou finalement ils ne disent pas que vous êtes incurable?
Alors, ils le disent, ils le pensent. Par exemple, en cancérologie, c'est un propos, ou dans l'insuffisance cardiaque sévère, donc c'est un propos qui est à la fois dit et qui est à la fois vrai, et on le dit en toute honnêteté. Et puis il y a l'incurable, parce que ça veut dire, monsieur, vous êtes condamné, vous avez une maladie neurologique, on sait que de manière inutile, vous avez un cancer du pancréas, vous avez eu a priori aucune chance de vous en sortir à relativement court terme. Alors, il y a naturellement, en fonction de la culture, de la finesse des gens, des attitudes radicalement différentes. Pour autant, il y a souvent une phase de révolte assez brève, et une phase d'acceptation. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'à partir du moment où le patient se dit incurable, la maladie, votre cancer, sort du jeu, et ce qui devient prédominant, c'est votre caractère incurable. Et presque la maladie est sortie du statut du patient, il n'est plus malade, il est un incurable, il est presque déjà dans une vie qui n'est plus celle de la maladie, il est dans un statut intermédiaire.
Et qu'est-ce que ça change finalement de passer de ce statut, comme vous le dites, de malade à incurable?
Ben, ça change radicalement, c'est la perspective sur l'avenir. C'est-à-dire que, en fait, les gens sont soucieux de laisser une trace et non pas soucieux de se sentir mieux. Donc le regard vis-à-vis de l'autre change, le regard vis-à-vis de la famille change. Ce qui est un peu important, c'est que les gens se souviennent de moi. Ce qui est important, c'est que je laisse mon livre préféré à mon petit-neveu, que je laisse... Et donc le statut... C'est comme dans les maisons de soins palliatifs. Ce qui est extraordinaire dans les maisons de soins palliatifs, c'est que des fois vous rentrez, vous êtes condamné à très brève échéance et que c'est pour des raisons matérielles. Et puis il y a un certain nombre de maladies où les gens rentrent dans maisons de soins palliatifs et ils vont y rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et dans cette phase de 3 semaines, 1 mois, ils ne sont plus malades. Ils sont dans ce statut encore en vie, et ils ont quitté le statut de malade. Ils sont déjà dans... la vivant mort, comme on dit. On est dans un état intermédiaire. Et le patient incurable est dans cet état intermédiaire.
Et vous dites que, finalement, il faut accepter sa mort. Quand on le sait, il faut pouvoir l'accepter parce que ça permet de partir mieux.
Ça permet de partir mieux. On doit aider, je suis le médecin, on doit aider les patients à accepter mieux leur mort parce qu'en fait, quand ils acceptent mieux leur mort, on leur supprime beaucoup d'angoisse. Et je pense que c'est particulièrement difficile de partir dans un monde fait d'angoisse et d'anxiété. Donc, c'est vrai que l'acceptation de la mort permet de réduire considérablement l'angoisse. Mmh. Et il faut, le plus tard possible, laisser l'autonomie aux patients. C'est-à-dire qu'il faut que les patients ont jusqu'au dernier moment une possibilité de décider quelque chose. Et pour que les gens, quand ils sont arrivés à un handicap ultime, quand ils sont arrivés au moment où ils n'arrivent plus à bouger facilement, eh bien, des techniques comme l'art, comme le rapport aux autres, etc., permet aux gens de décider ce qu'ils font. Et par exemple, l'art-thérapie est une méthode absolument extraordinaire où les gens, jusqu'au dernier moment, ils vont faire un peu de musique, ils vont peindre quelque chose sur un mur, et ça leur donne une autonomie et un statut humain encore préservé.
Comment on aide quelqu'un à accepter sa mort ?
en parlant.
Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas s'il y a de recettes miracles, hein, puisque c'est quand même de l'ordre de l'intime et de l'individuel.
Je pense qu'il faut aimer la personne qui est en face de vous en tant qu'être humain. Et à partir du moment où vous l'aimez, où vous avez une empathie avec elle, il y a un dialogue non-verbal qui se fait. Vous comprenez où ça se passe. Votre intuition et votre expérience vous permet de trouver les bons mots. Et vous laissez les gens la possibilité de décider. Quand quelqu'un va décider son menu une heure plus tard, eh bien, il pense à un petit avenir. Et en plus de ça, il est humain, il est quelqu'un qui a son statut.
En quoi est-ce que la maladie modifie-t-elle le rapport avec la solitude?
La maladie est source de solitude. Terrible, la maladie, pour la solitude. Déjà, même si les gens vous aiment dans votre entourage, celui qui a mal, c'est celui qui a mal. Personne ne partage votre douleur. Personne ne partage avec la même acuité l'angoisse que vous ressentez.
Mais donc, Philippe Abbastado, on ne voit plus personne, on ne voit plus de gens qui ont mal. Vous voyez, vous dites personne ne partage votre douleur, mais on n'entend jamais, rarement les gens se plaindre de douleur, vous voyez.
Alors, ce que vous dites a deux réponses. Première réponse, c'est que si on ne les voit pas, c'est qu'ils sont cachés. La douleur n'a pas disparu. Quand on croit qu'avec la morphine, on se fait supprimer toutes les douleurs, ce n'est pas vrai. On supprime beaucoup de douleurs, mais pas la totalité. Donc, celui qui a mal est soustrait du regard public. Donc, on ne les voit plus parce qu'ils sont déniés, ils sont
cachés. Ils sont écartés, donc on les cache.
Ils sont écartés. Ouais. Et finalement, on l'accepte de l'écouter une fois, et puis au bout d'un certain temps, l'entourage se lasse. Et donc, les gens gardent ce sentiment. Et puis, ils le gardent également pour les respecter, parce que finalement, on est tous éduqués à être bien élevés, à mourir dans un quasi-silence. J'ai mal, je vous ai crié aïe une fois, je vous ai crié aïe deux fois, mais je sais qu'à partir de la troisième fois, vous ne me supporterez plus.
Vous nous écouterez plus.
Exactement.
Vous dites que la maladie en tout cas, la mort, elle, a disparu quasiment complètement. Avant, les gens étaient en contact de la mort quasiment tout le temps parce que tout le monde habitait ensemble. Donc, on voyait toujours la grand-mère, le grand-père disparaître. Donc, la mort était présente. Elle avait un visage.
Alors, la mort était présente. Donc, ça, c'est les historiens, en particulier les historiens français, qui ont remis la mort sur le devant de la scène. C'est-à-dire que la mort a été, dans l'après-guerre, déniée. Il y a eu le tabou de la mort, et puis des écrivains comme Vauvel, des historiens, Vauvel, Ariès et autres, ont parlé du tabou de la mort, et on reparle de la mort comme on ne parlait pas de la mort avant. Donc la mort est revenue, même si on ne la voit plus, elle est revenue dans le paysage. En revanche, la maladie, elle, maintenant, elle a été supprimée. Vous prenez toute la publicité où on voit des hommes en blanc, c'est pour du bien-être. Donc on parle, tout ce qui est santé, c'est du bien-être, ce n'est pas de la maladie. Quand on a tout un discours médecine parallèle, c'est du bien-être.
On reviendra tout à l'heure sur la médecine parallèle, puisque vous avez un long dégagement là-dessus. Mais par exemple, on peut faire le test pour ceux qui nous écoutent. Allez dans une pharmacie aujourd'hui.
Allez dans une pharmacie.
Regardez la place qui est réservée au mètre carré médicaments et au mètre carré maquillage, lait pour le corps.
Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Exactement. Quand on regarde.
Automédication.
Voilà. Il y a quelques mètres de comptoir pour les médicaments et tout l'établissement sert à vendre finalement de la bonne santé. Donc quand vous regardez un dentiste à la télévision, une réclame de dentifrice, il y a un homme en blanc, mais c'est pour avoir les dents blanches, hein, c'est pas pour soigner la carie. Donc on est uniquement vers la bonne santé.
Mais qu'est-ce que ça veut dire que ces produits-là rapportent plus que les médicaments? Parce que les pharmaciens sont des commerçants, donc finalement ils sont là pour faire du chiffre.
Ils sont là pour vivre, quand on est gravement malade, ça dure souvent pas très longtemps. Quand on est en bonne santé, Dieu merci, ça dure des années. Donc l'investissement bonne santé, c'est-à-dire un client pendant 30 ou 40 ans, est mieux qu'un malade grave avec une faible marge sur les médicaments qui va vivre un an. Donc du point de vue commercial, la bonne santé est une nettement meilleure affaire que la maladie.
Une bonne santé qui se conserve et une maladie qui se prévient aujourd'hui.
Alors qui se prévient aujourd'hui, c'est un vrai débat actuellement.
Oui. Parce que ça fait des mots. Ou qui se chronicise, ça c'est encore mieux pour le budget.
Alors,
non, on va en parler tout à l'heure, on a le temps. Philippe Abbastado est notre invité aujourd'hui. Votre livre s'appelle Le dernier déni. Craignons-nous plus la maladie que la mort? C'est aux éditions Albin Michel et vous êtes notre invité jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon.
Philippe Abbastado est notre invité aujourd'hui, directeur de recherche à l'université Paris 7 en épistémologie appliquée à la médecine. Et vous êtes cardiologue et vous publiez Le dernier déni, craignons-nous plus la maladie que la mort, vous interrogez-vous, et c'est aux éditions Albin Michel. Votre livre part d'un étonnement finalement, celui du déni dont est victime la maladie. Alors de quoi parle-t-on ?
Eh bien, l'exemple classique, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que le patient diabétique, le patient HIV+, le patient qui a une maladie chronique, on lui demande s'il est malade, il ne l'est pas. Et alors ce même patient, il prend des médicaments matin, midi, soir, et est-ce que vous êtes malade ? La réponse est non. Et actuellement, on a un poids économique de la maladie, on a des contraintes sur la maladie tellement importantes que cette discordance entre « monsieur, je ne suis pas malade » et puis notre quotidien de médecin où la maladie envahit tout est ma source d'étonnement.
Bien, vous dites qu'une nouvelle approche doit s'imposer pour définir ce que c'est que la maladie.
Oui, parce que finalement, actuellement, on a un énorme problème, c'est que le monde n'arrive plus à payer la maladie, le monde n'arrive plus à payer le soin. L'exemple que je vais vous d'actualité, qui est le plus caricatural, c'est qu'il y a des médicaments qui manquent. Des médicaments qui manquent, pourquoi ces médicaments manquent ?
Il y a des pénuries de médicaments.
En 2017, il y a eu 540 ruptures d'approvisionnement en France. 540, plus de 10 médicaments ont manqué par semaine en France en 2017. Pourquoi ? La raison fondamentale est la suivante, c'est que le médicament, même s'il est très cher, comme il est donné à des millions et des millions de gens, les personnes n'ont les moyens de les payer. Les molécules, maintenant les molécules mères, le médicament principe, celui qui soigne, il est fabriqué à 90% en Chine et en Inde. Le monde occidental, des États-Unis à l'Europe, n'a plus les moyens de fabriquer les molécules actives au niveau mondial.
Mais pourquoi ?
Parce que le coût de fabriquer un médicament est tellement élevé, et le coût que peut payer les sociétés, l'ensemble du monde pour soigner les gens est tellement faible qu'il y a une discordance, qu'on n'a plus les moyens au coût de la fabrication des médicaments de fabriquer le principe actif dans le monde occidental.
Mais qu'est-ce qui coûte cher dans le principe actif si justement vous nous dites qu'il est vendu à millions d'unités?
Oui, mais alors quand vous...
C'est paradoxal, vous voyez, normalement le nombre devrait faire baisser le prix.
Alors c'est vrai quand vous faites une économie d'échelle, si vous passez par exemple de 10 000 à 1 million. Mais le problème, c'est qu'on soigne non pas un million, mais des dizaines de millions de gens. Donc il n'y a plus d'économie d'échelle possible, parce que les usines, finalement, ont un certain coût qui est déjà le coût minimum. Et donc, pour qu'on ait encore le coût minimum du minimum, on arrive à donc envoyer ces usines avec d'énormes inerties, d'énormes moyens, donc des grosses machines qui tournent, etc., dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, où la montée des usines n'est pas chère. Et donc actuellement, on se trouve avec des millions de gens malades et on a une société qui n'est plus capable de financer le soin de ces millions de gens.
On a eu un exemple, c'est le traitement pour soigner l'hépatite C.
Traitement de l'hépatite C, traitement du Parkinson, certains traitements antihypertenseurs.
Alors Parkinson, par contre, là, on est face à des gens qui ne veulent plus le prescrire.
Alors on a le problème du Sinemet, qui est un médicament. Le problème du Parkinsonien, c'est que le Parkinsonien vit normalement avec un équilibre, avec un savoir-faire, avec une petite cuisine qui lui est individuelle. Si la petite cuisine est perturbée, le bonhomme se trouve bloqué pendant une heure, pendant deux heures, etc. Donc une fois que vous avez un truc qui marche, surtout n'y touchez pas. Et le problème, c'est que quand vous avez une rupture de stock d'un médicament, vous pouvez prendre le cousin. Mais pour le temps que le cousin soit aussi bien équilibré, etc., le bonhomme, il va se trouver pendant deux mois ou trois mois complètement bloqué. Donc on est dans un équilibre très, très, très tendu en matière de médicaments. Même chose en hypertension artérielle, par exemple.
Alors, dans votre livre, vous voulez lutter contre des préjugés qui ont été installés par le monde des non-malades. Qu'est-ce qu'ils ont installé comme préjugés, ces non-malades ? C'est bien portant.
Le principal préjugé qu'ils ont, c'est que comme je vais être un jour malade, c'est moi qui décide pour ce qui va se passer demain en termes de maladie. Mais que le bien portant ne sait pas, c'est qu'il ne connaît pas la maladie. Et le problème, c'est qu'on est tous des bien portants d'aujourd'hui pour être des malades demain. Et le malade, par définition, est tellement malade qu'il ne peut pas décider. Et donc, on se retrouve dans un système absolument coincé où les gens, notre système de santé, par exemple en France, est fait par des bien portants et on a des dépenses considérables sur des choses qui ne servent à rien et qui existent simplement pour maintenir les régions équipées, etc.
Exemple. Vous n'allez pas vous faire d'amis, hein.
Non, mais par exemple, tout le système de cure, par exemple, où on hospitalise, enfin, on prend en charge des gens pendant des semaines, donc aux frais, ou en partie aux frais du contribuable, et à l'inverse.
Des cures, donc, mais ça coûte combien, la sécu?
J'ai pas les chiffres.
En pourcentage, ça coûte combien?
C'est des chiffres considérables, parce qu'il y a des villes qui en vivent. Donc,
alors, écoutez, ce qu'on me dit, c'est que en termes de budget de la sécurité sociale, ça représente pas des masses.
Oui, mais à force d'avoir pas des masses et pas des masses et pas des masses, ces petites rivières font des grands fleuves. Mais vous prenez quelqu'un pendant 3 semaines, donc avec une prise en charge pour l'État, vous avez une appendicite. L'appendicite, on dit que c'est rien, mais l'appendicite, celui qui a une appendicite, il a quand même un phénomène infectieux. On l'endort, on l'opère, et le lendemain, on le ramène au travail. Donc, si vous voulez, entre l'appendicite...
Enfin, vous exagérez un petit peu, mais on le ramène chez lui, en tout cas.
C'est l'ambulatoire.
Oui.
C'est l'ambulatoire.
On le ramène chez lui.
On fait de l'ambulatoire. La hernie, c'est de l'ambulatoire. Une prothèse de hanche, maintenant, on les fait en ambulatoire. Donc, on est dans un circuit où... Bon, des personnes âgées qui ont des rhumatismes, il faut respecter tout ce petit monde. Hmm. On les prend en charge 3 semaines, mais celui qui est productif... On le remet au travail au bout de 2, 3, 4, 5 jours. Donc, il y a quand même celui qui est malade, c'est celui qui fait ses 42 fièvres, c'est celui qui peut pas marcher. Bon, que vous soyez âgé, que vous soyez coincé de partout, c'est une chose. Mais il faut quand même pondérer les choses. Or, on ignore tout ce qui est maladie autour de l'acte technique. L'acte technique, on le privilégie, mais autour de l'acte technique, on oublie tout.
Alors, vous parlez de déni. Comment ça s'organise, un déni?
C'est un silence social inconscient. Il n'y a pas un grand chef qui dit j'oublie tout. C'est qu'on met chacun sa petite part de déni. Vous prenez un bon médecin, il sait sa médecine. Et puis le bonhomme, il tousse un peu. Il va surtout pas aller consulter. Il a des problèmes de prostate, il va surtout pas consulter. La nana qui est gynécologue, est-ce qu'elle fait sa mammographie? Je suis pas sûr que la nana gynécologue fasse sa mammographie régulièrement. Et ça, même le médecin a son déni, parce qu'on a notre quotidien, parce que le jour où on va faire sa mammographie, y a les enfants qui arrivent. C'est ça, le déni social. Donc, chacun y participe un peu. Et c'est comme ça que se fait le déni.
Vous dites que le déni, ça ne doit pas être confondu avec un mot. Alors, un mot un peu compliqué, hein, c'est l'anosognosie.
Alors, l'anosognosie,
c'est l'anosognosie.
C'est gnose, c'est savoir. Anoso, c'est ne pas savoir. La maladie. L'anosognosie, c'est une autre maladie, c'est-à-dire qu'on ne se sait pas malade. C'est-à-dire quelqu'un est malade et ne se plaint pas de sa maladie. L'exemple typique de l'anosognosie, on l'a dit, c'est l'alcoolisme. Le type qui est alcoolique, il ne se sait pas malade et c'est la souffrance de l'entourage.
Parce qu'il ne veut pas le dire.
Parce qu'il est en déni, exactement. Ouais. Mais il ne se sait pas. Et puis c'est la souffrance de l'entourage.
Même s'il le sait. Vous croyez que vraiment quelqu'un est alcoolique, même il le sait.
Écoutez, fréquenter un peu les alcooliques, avant qu'ils soient pris en charge par le système, qu'il y ait une déchéance sociale, parce qu'il y a une déchéance familiale, une déchéance sociale, tant qu'il est à boire beaucoup et qu'il trouve ça très bien, la famille souffre, et c'est l'alcoolique qui ne sait pas l'élément.
Donc, il ne se sait pas malade.
Il ne se sait pas malade, et c'est la famille qui le sait. Donc ça, c'est l'anosognosie. Le déni, c'est une société qui sait qu'il y a un problème et qui le met sous la carpette. Mmh. Il cache le sujet. Donc, c'est deux concepts différents.
D'accord. Et quelle est l'utilité d'un déni?
De se protéger. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus confortable d'être bien portant en sachant que la maladie n'existe pas parce que je l'ai cachée, que de se dire je suis bien portant, mais demain, je vais être menacé. Et quand on pose la question à peu près à 80% des gens maintenant, est-ce que vous craignez la mort? Les gens vous disent oui, non. Est-ce que vous voulez être malade? Surtout pas. Moi, ce que je voudrais, c'est mourir en bonne santé. On veut passer du cap je suis playboy en grande forme et à mort sans passer par la
souffrance.
Par la souffrance et toutes ces choses-là.
Mais c'est peut-être aussi une stratégie de défense, tout simplement.
Le déni est une stratégie. Exactement. Mmh. Exactement. Le déni est une souffrance, est une défense. Exactement.
D'ailleurs, vous êtes en bonne santé tant que vous n'êtes pas malade.
Exactement.
Enfin, en tout cas, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tant que vous n'avez pas le diagnostic, c'est comme les femmes enceintes, finalement. Une femme enceinte à qui on annonce qu'elle est enceinte.
Il y a des ennuis. Si vous dites, commencez à dire qu'une femme est a priori enceinte, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas dans l'air du temps.
Quand une femme se sent enceinte, elle commence à avoir les positions, vous voyez.
Ah oui, exactement. Exactement. Ça, c'est
très curieux. Mais tant qu'elle le sait pas, voilà. Et puis, vous voyez très vite les choses changer.
Tout à fait, mec. C'est très amusant, c'est que, la femme est habillée en juste au corps, petite jean, etc. Réaction immunologique de grossesse positive, changement de robe. Immédiate.
Qu'est-ce que ça nous dit d'une société quand elle ignore la maladie, ou en tout cas qu'elle veut la cacher? Qu'est-ce que ça nous dit d'elle?
On est dans une société d'hédonisme, on est une société de consommation, on est une société où on veut le petit plaisir immédiat, et avoir quelque chose qui nous cache, enfin avoir quelque chose qui nous fait peur, on veut le cacher. Je ne sais pas si le mot existe pour une société, mais si au niveau d'un individu, on appellerait ça de l'immaturité. Donc, il faut qu'on sache, qu'une société sache qu'il y a cette phase qui existe et qu'il ne faut pas la cacher. Et que si le coût économique de ce phénomène est tellement lourd que ça le gêne, ce n'est pas en cachant le phénomène que la société va mieux vivre et que les gens vont mieux vivre.
Docteur Philippe Abastado, est-ce que la vieillesse est une maladie ?
La vieillesse n'est pas une maladie. La vieillesse, c'est une perte de la possibilité de s'adapter aux contraintes du milieu. C'est-à-dire, la définition n'est pas de moi, c'est de Canguilhem. Donc, Canguilhem considère...
Il y a plusieurs définitions de citer longuement dans votre livre, voilà. Mais alors, c'est la vieillesse.
Canguilhem considère que la vie est une flèche entre la naissance à la mort et qu'à chaque moment, on doit pouvoir s'adapter donc à notre nouvel état, à ce qui se passe dans notre corps et autour de nous. Et la vieillesse, c'est une diminution de capacité de s'adapter. Par exemple, il fait froid aujourd'hui, les gamins qui ont 17 ou 18 ans, les filles sont en mini-jupe et les garçons ont une chemise. Et puis, quand vous êtes âgé, eh bien, pour sortir par le même climat, vous mettez 3 pullovers, 5 caleçons, 3 chapeaux et un cache-col. Donc ça, c'est l'âge, mais c'est pas la maladie.
Alors pourquoi déplorez-vous dans ces cas-là qu'on ne meure plus aujourd'hui de vieillesse ?
Alors c'est pas que je le déplore.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plus parce que avant on mourait de vieillesse. Vous voyez, on disait de quoi est-il mort ? Donc il est mort de vieillesse. Donc j'en déduis que pour vous la vieillesse était une maladie.
Non, c'est, le propos est pas ça. C'est qu'actuellement on ne meurt plus de vieillesse légalement.
Voilà, c'est légalement. C'est comme il n'y a plus d'arrêt maladie.
Je déplore pas parce que je trouve que c'est beau de mourir de vieillesse. Donc l'image me paraît presque belle. Mais dans notre société, quand on meurt, le docteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il remplit un papier. Et dans le papier, donc qui est OMS mondial, hein, c'est pas français. Mais il faut dire de quoi les gens sont morts. Et on ne peut pas dire qu'ils sont morts de vieillesse. Il faut toujours une cause pour la mort de quelqu'un. Donc c'est quand même un signe des temps. C'est-à-dire que la case vieillesse n'est plus la case prévue. Et alors ce qui est assez amusant dans le même esprit, c'est-à-dire l'administration intellectuelle fait qu'on supprime des choses, quand vous prenez des dictionnaires du corps, là, de Le Cours, c'est un très beau dictionnaire, eh bien il n'y a pas d'entrée maladie. Il n'y a pas un chapitre où il y a marqué maladie. Donc il y a un chapitre et c'est à la épistémologie que l'on trouve l'émission de définition de la maladie, etc. Mais la maladie n'apparaît pas dans le dictionnaire donc du corps de Le Cours, c'était un excellent bouquin de référence, mais l'entrée maladie n'existe pas. Eh bien, quand vous faites un constat de décès, l'entrée
vieillesse
sortie, par la vieillesse n'existe plus.
N'existe plus.
N'existe
parce
plus.
Qu'elle est,
parce que c'est pas OMS, mais dans le monde on ne meurt pas de vieillesse.
Mais ça existait.
Mais ça existe encore. Ça existe.
Non, je veux dire avant il y avait la sortie vieillesse.
Avant on remplissait à la main un formulaire et on mettait sans cause. C'était vieillesse.
Ouais. Ceci dit, regardez, le terme de vieillesse, c'est comme le terme de grave. C'est très subjectif. Ce que c'est qu'une maladie grave, ce que c'est que la vieillesse, à partir de quoi on est vieux, vous voyez.
Eh bien, écoutez, c'est très subjectif et dans la pratique du quotidien, du médecin au quotidien, on s'aperçoit que la vieillesse est reportée beaucoup plus loin. 80 ans en forme ne devient plus exceptionnel. À 80 ans, alors il ne faut pas être malade, il ne faut pas être gros, il faut marcher, il faut bouger, il faut avoir une hygiène de vie. Quand vous n'avez pas les malchances, un bonhomme ou une dame à 80 ans qui se promène et qui a une vie normale, bon... À 80 ans,
mais franchement, au-delà aujourd'hui, docteur Abastado.
En pratique, ce que j'allais vous dire, c'est 80 ans, on commence à s'adapter et on commence à devenir vieux à 90, 95 ans. Mais jusqu'à 90 ans, comme tous mes collègues, j'ai des 90 ans qui se marient. Hein. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas où il est.
Là, vous voyez, vous me laissez sans voix, ils se marient.
Oui.
Ouais. Mais avec des personnes qui ont quel âge ?
En général, 10 à 15 ans de moins.
Oui, voilà, c'est ça. Vous voulez qu'on en parle ?
Écoutez, c'est ça, sérieux, ça
correspond. J'ai plein de sujets, mais ça ne rentre pas dans l'émission. Non.
Vous avez des exemples en tête à l'époque?
Non, j'ai pas d'exemple.
Ouais, je pourrais vous en donner.
Mais ça veut rien dire d'avoir 90 ans aujourd'hui, ou 85 ans. Je veux dire, il y a plein de façons d'avoir 80 ans, ou 85 ans, ou 90 ans, et tout le monde, il y a une vraie...
Il y a un vrai changement là.
Ouais, là, il y a un vrai changement. Aujourd'hui, une femme de 80 ans, c'est une femme qui avait 60 ans il y a 20 ans à peu près.
Ici, on est à Radio Beurre, mais...
Alors, Beurre FM. Beurre Radio FM. Beurre, c'était il y a 30 ans.
Ah bon, alors Beurre FM. Mais simplement par une chose, on a en français un terme qui est donc une femme d'âge canonique. Donc, l'âge canonique, c'est dans le droit canon, donc c'est le droit catholique, c'est du 19e siècle, c'est l'âge à partir duquel une femme peut être dans l'entourage des prêtres. C'est-à-dire qu'il y a du scandale, ni pour les prêtres, ni pour la femme. 42 ans. Les femmes de 42 ans, je vous promets qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres qui auront la tête tournée, hein.
Bien, là vous me laissez sans voix Philippe Abbastado, je vais avoir le temps d'une page de publicité pour réfléchir. Le dernier déni, craignons-nous plus la maladie que la mort, aux éditions Albin Michel, et c'est votre livre.
À votre santé, reviens dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon.
On parle de la maladie aujourd'hui avec mon invité, le docteur Philippe Abbastado. Vous publiez le dernier déni, craignons-nous plus la maladie que la mort, aux éditions Albin Michel. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'université Paris 7 en épistémologie. On rappelle à ceux qui nous expliquent, qu'est-ce que c'est que l'épistémologie appliquée?
L'épistémologie, c'est c'est l'histoire et la philosophie des sciences. Et là, c'est l'histoire et la philosophie des sciences appliquées à la médecine, c'est-à-dire c'est la critique du savoir médical.
Bien. On parlait du bien-être tout à l'heure. Nous sommes dans une culture du bien-être et vous vous intéressez à ce qu'on appelle les médecines parallèles. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous choisissez de les appeler les médecines parallèles ?
Médecine parallèle parce que la question est doublement perfide. La médecine parallèle, c'est parce que c'est le terme d'usage le plus fin, le plus habituel. Et pourquoi la question est perfide? Parce que on revient le concept de déni. Actuellement, personne, sauf des criminels, ne pense traiter un cancer, ne pense traiter un infarctus du myocarde avec des techniques dites de médecine parallèle. L'homéopathie face à un cœur qui s'arrête, face à la chimiothérapie, ça ne marche pas. Donc la médecine parallèle est appliquée aux gens en bonne santé. Et donc, elle est pas de la médecine.
Pas forcément. Vous prenez un exemple dans votre livre.
Alors moi j'ai deux exemples.
Oui, vous prenez des exemples de personnes qui ont choisi de ne pas prendre ce qu'on appelle la médecine allopathique.
Oui, le problème c'est qu'on voit tous des patients qui auraient été sauvés. Et les exemples que je donne, c'est des amis d'ailleurs, c'est pas simplement des patients. Donc, qu'on aurait pu aisément sauver. L'un était un garçon tout à fait charmant et qui avait un cancer de l'amygdale. On était un soir à dîner chez une amie, il se plaint. Moi, je suis cardiologue, donc rien à voir avec l'ORL. Je vois un truc au fond de l'amygdale. J'appelle un copain ORL, facilement soigné. Il est parti au Tibet. Il revient un an après.
Il est parti au Tibet méditer parce que il était au courant que dans ce...
Le traitement, c'était un traitement lourd, mais tout à fait accessible dans une forme localisée. Et je le revois revenir du Tibet un an ou un an et demi plus tard avec, en fait, bilatéralisé, c'est-à-dire l'ensemble de la sphère prise, et il est mort rapidement. Et ce qui était triste et pathétique, c'est que, en fait, donc, pour le soulager, il y a eu entre autres de la chimiothérapie. Et cette chimiothérapie qui lui faisait très peur, eh bien, lorsque l'on l'applique avec toutes les précautions, tout l'entourage moderne, elle a été beaucoup moins pénible qu'à ce quoi il s'attendait. Et ça, c'est une frustration terrible parce que finalement, le bonhomme, il s'aperçoit un an et demi après que ce qu'il avait fui et qui aurait pu le sauver, ben finalement, c'est pas aussi violent que ça. Donc, et malheureusement, dans le même entourage d'ailleurs, j'ai eu deux exemples tristes et personnels. À chaque fois la même chose.
Est-ce que vous avez des exemples dans votre entourage de personnes qui ont souffert des mêmes maladies et qui ont choisi d'autres voies et qui s'en soient sorties? Parce que, vous voyez, il y a aussi... Parce que moi, j'anime une émission de santé, je peux dire que je suis très... Enfin, je me renseigne, j'écoute. Il y a aussi des choses qu'on arrive... Par exemple, en cancérologie, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas toujours à expliquer de gens qui refusent certains traitements.
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que dans la médecine, on va dire traditionnelle, on se fiche... du mécanisme. La seule chose qui valide une technique, c'est que la démonstration statistique du bienfait d'une technique par rapport à une autre. C'est-à-dire que ce soit la vitesse du vent dans les nuages ou que ce soit une chimiothérapie violente, si la vitesse du vent dans les nuages est efficace, c'est elle qui est retenue. On ne comprend pas, c'est-à-dire on s'en méfie.
Voilà,
c'est le résultat qui compte. Point barre.
En médecine, c'est le résultat qui compte. C'est-à-dire qu'une méthode, même si ce n'est pas celle que vous connaissez, si elle est plus efficace, sera validée.
Exactement. Quand c'est démontré scientifiquement qu'une méthode A est supérieure à la B, quelle que soit la construction intellectuelle qui soutient A ou B, c'est la méthode la plus efficace qui est validée. Donc, les médecines dites parallèles sont des médecines qui n'ont pas démontré une efficacité scientifique.
Alors, pour être clair, vous dites que c'est carrément un business, et vous dites même que c'est un business qui est plus lucratif que le business des médicaments.
Alors, le business est un business plus lucratif que médicaments, en sachant
c'est
que...
C'est pas un discours qu'on entend tous les jours, ça.
C'est plus lucratif, mais... En sachant que je ne suis pas hostile absolument, c'est-à-dire que premièrement, lorsqu'on est en bonne santé, je pense que l'emploi intelligent des médecines parallèles est utile, parce que finalement, vous avez un souci du corps, vous avez une hygiène de vie qui va avec, et donc pour le sujet en bonne santé, je ne suis pas hostile, voire même je suis favorable. Deuxième chose, lorsque vous avez une pathologie sévère, des aménagements avec des médecines, donc on va dire encore parallèles, peuvent rendre les choses plus confortables. Il est évident, par exemple, qu'en cancérologie, l'acupuncture amène des bienfaits.
Donc c'est complémentaire dans ces cas-là.
Là, c'est complémentaire. L'emploi, par exemple, du H dans certaines formes de douleurs, etc., est très utile. Donc, on utilise. Mais lorsqu'on est dans la situation du soin et qu'on peut sauver quelqu'un, se limiter de militer pour une médecine parallèle quasi exclusive me paraît criminel. Et la deuxième chose...
Donc, elles peuvent être complémentaires.
Ah, pour complémentaires, ça, voilà. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est vrai que le business est un business beaucoup plus juteux. Beaucoup plus... Quand vous regardez les grosses compagnies de médicaments, elles sont des compagnies mondiales. Mais ce sont des compagnies où, excusez-moi, mais vous et moi, on n'est pas... Ce qui gagne, c'est pas notre...
Non, mais on dit toujours que les médecins, ils sont appointés par les laboratoires, qui font des conférences, qui roulent pour... Et que les médecins roulent pour les...
Non, ça, c'est pas vrai. Je reviendrai dans deux secondes.
Pas vous.
Non, mais même, c'est vraiment à la marge, il y a quelques individus, mais c'est vraiment tout à fait marginal. Mais... si vous voulez, par contre, quand vous faites une médecine où vous n'avez pas la sécu qui vous contrôle, où le prix des autres choses ne sont pas... En tout cas, au niveau d'un petit médecin comme moi, individu, ou comme un petit pharmacien, j'ai pas une industrie derrière moi, c'est beaucoup plus facile de gagner très bien sa vie, donc avec un système non contrôlé, qu'avec un système hyper fliqué, donc comme on soigne. Bon, quand vous êtes dans un hôpital, quand vous êtes chirurgien, finalement, quand vous faites de la chirurgie esthétique, vous gagnez avec beaucoup moins de contraintes, 10 fois mieux que le type qui opère un pancréas, qui dure 12 heures et qui va te toucher une misère. Donc, l'enrichissement personnel des intermédiaires, des petits bonhommes, c'est-à-dire qui ont simplement leurs mains pour travailler, c'est beaucoup nettement supérieur dans la médecine parallèle.
Pourquoi pour vous, le développement actuel de ce que vous appelez aussi l'altermédecine vous semble une perte de compréhension de ce que c'est que la maladie ?
Parce qu'en fait, c'est une perte de compréhension parce que la maladie nécessite d'énormes moyens, donc nécessite de remises en question permanentes. Et finalement, l'autre médecine, on a des schémas qui sont souvent des schémas explicatifs et qui ne correspondent à rien. Quand j'ai rien contre la médecine ayurvédique, j'en suis. Si les gens sont heureux, je suis pour que les gens soient heureux. Mais il n'empêche que quand on voit l'expérience de vie au Tibet, quand on voit l'expérience de vie en Chine, et quand on s'aperçoit que l'arrivée de la médecine occidentale traditionnelle, peut-être un peu plus violente, fait que l'espérance de vie est passée de 50 à 80 ans, le débat s'arrête.
Il y a une question, nous dites-vous, auquel les médecins ont encore aujourd'hui du mal à répondre, c'est quand cela a-t-il commencé ? Et c'est une question que les patients qui portent une maladie depuis des années, qui est silencieuse, hein, ne savent pas, et puis vous dites, mais ça a commencé quand, docteur ?
Grosse question, ça. Grosse question. Question métaphysique, question philosophique, quand est-ce que la première... Prenons l'exemple du cancer, on va prendre ensuite les pathologies cardiaques. Quand est-ce que la première cellule a muté ? Et quand est-ce que la première cellule a muté ? Mais il y a tous les jours des cellules qui mutent. Mais il y a toujours un système qui répare la cellule qui mute. Alors quand est-ce que la première cellule qui n'a pas été réparée dans une... Difficile à répondre. Quand vous êtes diabétique, à partir de quand votre pancréas a commencé à mal marcher ?
Ouais.
Quand vous êtes cardiaque, À partir de 15 ans, les artères commencent à s'épaissir. Est-ce que vous avez commencé à boucher votre artère il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 mois? Alors, il y a par exemple, et là c'est presque une croyance personnelle et non pas démontrée, c'est que des stress majeurs amènent à accélérer le phénomène.
C'est des alter-croyances.
Mais si vous voulez, pas de réponse à la question. Et bien sûr, ça rentre dans le cadre de la difficulté de définir la maladie, parce qu'on ne sait pas quand elle commence. Le patient sait quand elle commence pour lui, c'est le jour où on lui a dit qu'il est malade. Alors là, ce jour-là, il a compris qu'il se passe quelque chose.
Voilà, il change de
registre.
Vous écrivez, l'imbécile existe chez le médecin. C'est qui, ouais, les imbéciles? Et alors, il y a des noms?
Là, c'est le côté provocateur. On a tous rencontré des vrais CON, hein, dans notre métier.
Qu'est-ce que vous êtes bien élevé? J'aime bien, là.
D'habitude, c'est autre chose, hein. Le type qui n'écoute pas. Le nombre de mecs qu'on a négo surdimensionné, le type qui a aucune empathie pour ses patients, le mec qui est pressé parce qu'il s'est garé en double fil, il truc, celui qui rentre avec ses clés de voiture, bon allez, je me fais 4 patients et je vais au golf après. Non, mais il y a des plaies nationales dans la médecine, comme dans tous les métiers. Alors quand on critique, comme je le fais dans ce livre, toute une série de choses, ne pas critiquer son propre corps de métier, c'est quand même, ce serait un autre déni.
Pour terminer cette émission, Philippe Abbastato, beaucoup de malades souhaitent faire de leur maladie quelque chose.
Exactement. Alors c'est très intéressant parce que ça dépend de la pathologie. J'étais la génération, quand j'étais étudiant en médecine, le sida est apparu. J'ai des amis, voire des membres de la famille qui ont eu le sida, donc lui en particulier en est mort. Et naturellement, quand vous êtes étudiant en médecine, ça frappe. Et j'étais frappé par l'extrême violence à l'époque de Guibert et autres contre ce qu'ils appelaient la médecine.
Oui, parce qu'ils disaient finalement vous n'avez pas de réponse.
Ce qui est extraordinaire, c'est que cette extrême violence, finalement, dans cette pathologie, on n'a pas trouvé la solution, mais presque.
Et donc elle a été utile.
Je ne sais pas si elle a été utile. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je crois qu'il y a eu des utilités. Elle n'était pas utile en absolu, mais il y a eu des utilités, en particulier modifier la place du malade dans la structure. Et puis, il y a des pathologies, à l'inverse, où, par exemple, un certain nombre de cancers, où les gens écrivent, mais là, le propos, c'est mon expérience est utile à d'autres. Et ce qui me fascine, c'est que, donc, dans le monde, je dirais, homosexuel de ces années-là, très violent, le cancer du sein, où beaucoup de femmes ont écrit, eh bien, je ne sais pas pourquoi, autre typologie, autre truc, c'est mon cancer est utile à d'autres. Et puis, je vais prendre une autre pathologie, par exemple, les pathologies dégénératives, avec plusieurs écrits récents sur la maladie de Charcot. Et là, c'est une description presque philosophique du parcours du malade. Et donc, selon la pathologie, on a une autre
voilà, écriture. Et on est utile différemment. Philippe Abbastato, votre livre s'appelle Le dernier déni, craignons-nous plus la maladie que la morte. Un livre qui fait réfléchir, du bien, sur la maladie, sur ce que c'est qu'une maladie, sur cette définition tellement difficile à poser sur un mot qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'a pas d'entrée dans un dictionnaire que vous étudiez à l'école en plus, hein, vous les médecins. Votre livre est publié aux éditions Albin Michel. Vous réécoutez cette émission qui est podcastée sur le site de Beurre FM, www.beurrefm.net. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.